Sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komaniecki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain, les écoutait. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue 7 fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Dire l'indicible. Tandis que nos temps numérisés bombardent nos cerveaux d'informations brèves, violentes, inassimilables, qui chahutent nos consciences et les placent dans un mouvement binaire et permanent du pour ou contre, face aux faits divers, à l'innommable qui nous laisse impuissants et souvent sidérés. Le conte merveilleux est un baume puissant. Il parle à nos inconscients, par le prisme de sa langue symbolique. Il nous permet de sentir, de vivre, de traverser, de nommer en profondeur ce que nos consciences refusent. Il remue, il dérange et puis il nous réveille. Dans ces temps où des paroles se libèrent, parlant de violence, de domination, nommant l'inceste et posant ses lumières crues sur des décennies de silence, le conte merveilleux nous offre de faire corps avec ce qui nous anime en profondeur, de pouvoir y saisir nos propres ambivalences, d'aller éclairer la cave pour y laisser monter le chant de quelques ossements enfouis.
Je suis parti ce matin même, encore sous de la nuit mépris, comme d'écœurement suprême, crachant mes adieux à Paris. Et me voici, ma bonne femme. Oui, foutu comme 4 sous, mon linge est sale aussi, mon âme. Et me voilà, chez nous. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Voici ce linge goûte à menthe, et maintes fois un vin amer, où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Et voici mon âme plus grise, des mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise, gris, rose et lilas. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Au fond du cuvier où l'on sème, parmi l'eau, la cendre du four, que tout mon linge de bohème repose durant tout un jour, et qu'enfin mon âme pareille à ce déballage attristant, parmi ton âme, ô bonne vieille, repose un instant. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Comme le linge confie sa honte à la douceur de l'eau, quand je t'aurais conté ma vie, malheureuse d'affreux salaud. Ainsi qu'on rince à la fontaine, le linge au sortir du cuvier mère, arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé, tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure, en dépit de son long sommeil, dans la douleur et dans l'ordure, revivre au soleil. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment.
Gigi Bigot est née en Bretagne. Elle y a été enseignante auprès d'enfants autistes et psychotiques. Elle a conduit des ateliers thérapeutiques autour du conte, Elle est devenue conteuse professionnelle en 1992 et a créé des spectacles jeunes publics et adultes. L'éducation populaire chevillée au corps, elle n'a de cesse de nourrir et questionner les forces restauratives de la langue symbolique portée par les contes.
Je ne connaissais rien aux contes, parce que la tradition orale s'était arrêtée. En Bretagne, ça s'est arrêté à peu près déjà 14-18 et vraiment après la guerre de 1945. Et l'industrialisation et tout ça, les villes. Donc, je n'ai jamais entendu une histoire quand j'étais enfant. Ensuite, j'ai vécu les années 70. Et dans les années 70, le conte paraissait antiféministe, vieillot, etc. Et le renouveau du conte n'a redémarré que dans les années 80. Et c'est parce que je me suis trouvée à enseigner avec des enfants psychotiques dans une association qui n'accueillait que 15 enfants et où on pratiquait la psychothérapie institutionnelle. Dans cette équipe, ils ont su que je lisais à l'époque des contes à la radio, Radio Pays de Vilaine, parce que c'était la mode des radios libres dans les années 80. Et ils ont su que je faisais cette petite émission le samedi matin, une émission d'une heure, où je lisais des contes. Le conte, c'est aussi de la parole. Et le conte, avec sa force symbolique, s'adresse à un autre endroit de l'individu, et c'est pour ça que le conte était absolument intégré à Guénouvry, ses paroles avaient quelque chose à faire ensemble, elles se juxtaposaient, elles cohabitaient. Je me souviens de ce conte que les enfants adoraient, le conte du Genévrier. Il y a une petite chanson dedans. Et c'est comme ça, c'est « Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma petite sœur Marlène a eu bien de la peine pour ramasser mes os, et je suis devenu ce bel oiseau. » Et il arrivait que les enfants sortent avec la chanson, tellement elle était forte, quoi. Et c'était on racontait vraiment des contes traditionnels, avec des choses effectivement violentes. Une maman qui tue son enfant, qui le donne à manger au père. Quand je le dis comme ça, comme un fait divers, c'est insupportable, c'est inentendable. Mais justement, ce n'est pas du fait divers, c'est de la parole symbolique. Ce sont des images pour dire, et la violence dans un conte n'existe jamais pour la violence. Elle existe parce que elle va faire cheminer.
Une fois, c'était un petit garçon puis une petite fille. Ils étaient frères et sœurs. Ils sont partis dans le bois en se tenant par la main. Rendu là, la petite fille s'est mise à cueillir des fleurs, puis le petit gars, lui, il faisait rien. Ben, il courait après les écureuils, des affaires de même. Lorsque tout d'un coup, derrière un bouquet de menthe, la petite fille, elle a trouvé une pimprenelle. « Hey, viens voir, frérot. Garde la belle fleur. Hey, ça, c'est pour papa. Sais-tu pourquoi? Parce que de nous deux, là, c'est moi que notre père préfère. » « Pourquoi tu dis ça, toi? » « Je le sais. Il me l'a dit souvent. Il me l'a montré aussi. Mais ça, c'est un secret. » Hey, « Donne-moi ça, ce fleur-là. »« Non, 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 tu l'auras pas. Donne-moi-la. Hey, t'as rien fait, toi, aujourd'hui. Donne-moi-la, qui dit. Sinon, tu vois la pierre? Je vais te la lancer. » »« Ben, lance-la. » Le temps passe comme ça. Ben, quelques années plus tard, dans le rang où le petit gars et la petite fille avaient été élevés, il y a une maison, il y a une femme qui regarde par la fenêtre. C'est le maire. Elle voit descendre dans la côte du rang un vieux, les cheveux gris dans le cou, nu-pieds, traîne derrière lui une charrette remplie de cossins, habillée ben trop chaudement pour la saison. Elle dit « Mon Dieu, un quêteux ». Elle avait peur des quêteux, quelque chose d'épouvantable. Elle connaissait le pouvoir des mendiants, celui de jeter des sorts. Ça pouvait rendre un troupeau complet malade. On disait même que ça pouvait faire décoller un enfant dans le ventre d'une femme. Elle ouvre la porte en arrière, puis elle crie « Hey, bonhomme, un quêteux, occupe-toi-en ». Lui, par exemple, il avait la réputation d'accueillir tous les maudits quêteux qui se présentaient dans la région. Il sort de l'étable en s'essuyant les mains sur le pantalon. Il voit ce vieux-là qui rentre dans la cour avec sa charrette. Ben, maudit! C'était pas Corbeau, le quêteux Mailloux. C'était pas le quêteux Tremblay avec ses airs de violon. C'était pas le quêteux Bissonnette avec ses amulettes. C'était pas Bonnet Rouge. C'était pas le fou de Sainte-Anne de Bellevue. Il connaissait pas celui-là. Bonjour. Vous devez avoir faim, hein? Ben, venez ici. Assoyez-vous sur le bord de la galerie, là, ma femme va vous faire des sandwichs. Puis là, le quêteux, il a mangé. Vous devez être fatigué aussi, hein? Marcher des distances de même, nu-pieds, ça a du bon sens. Regardez dans le hangar, là, il y a un sofa, c'est pour vous. Alors, je vais vous amener des couvertes, vous allez être bien. Puis le quêteux, il a dormi. Puis il a fait des rêves de quêteux. Le lendemain matin, il vient pour s'en aller. Le vieux Pavieil était dans la cour. Elle dit « M'en dit-on? » « Excusez, monsieur, vous avez pas un onguent, quelque chose? Ma femme a mal, ça y démange, elle sait pas qu'est-ce qu'elle a. »« Oh, non, pas un guérisseux, non, quêteux, moi, une petite musique, et petits-enfants, vous. » On avait deux beaux enfants, un petit gars, une petite fille. Puis un jour, ben, ils sont partis dans le bois, puis il n'y a rien que le petit gars qui est revenu. À vrai dire, mon pauvre monsieur, c'est comme si on avait perdu nos deux enfants. Depuis ce jour-là, il est plus le même. Il parle plus. Il sort plus de sa chambre. Ben, petite musique, petit enfant, petit garçon. Le bonhomme, la bonne femme, suivi du quêteux, ça rentre dans la chambre du petit gars. Il était couché dans le lit, les yeux ouverts, il ne dormait pas. Le quêteux a mis la main dans sa poche. Il a sorti un vieux mouchoir carotté. Il a secoué, puis du mouchoir est sorti une petite branche. Une petite branche sèche, toute brune, qui a roulé sur le bord de la couverture. C'est bizarre, je te mens pas, au bout, il y avait quelque chose. Ça ressemblait à un ongle. Le quêteux a pris la branche. Il l'a portée à ses lèvres, puis la minute qui a soufflé dedans.
Quêteux, quêteux, tu me tiens dans ta bouche, tes mains qui sont si douces, au bois des gris, tu m'as trouvé une fleur de pimprenelle que j'avais trouvée.
Où c'est que vous avez pris ça, vous? Dans le bois. Une petite lumière, un feu follette, une branche, une musique, petit enfant, petit garçon. Là, le quêteux, il a tendu la tige à la mère puis au père pour qu'ils essayent chacun le tour.
Maman, maman, tu me tiens dans ta bouche. Tes mains qui sont si douces, au bois des gris, tu m'envoyais une fleur de pimprenelle que j'avais trouvée. Papa, papa, tu me tiens dans ta bouche, tes mains qui sont si douces, mon cœur était farouche, au bois des gris. Tu m'as aimé, une fleur de pimprenelle que j'avais trouvée.
Le petit garçon, lui, il voulait pas souffler. Mais le quêteux, il a tendu la branche comme aux autres. Puis la minute qu'elle a effleuré ses lèvres.
Frérot, frérot, tu me tiens dans ta bouche, tes mains qui sont si douces, au bois des gris, tu m'as tué. Une fleur de pimprenelle que j'avais trouvée, que j'avais trouvée.
La mère, elle pleurait. Le père, il disait pas un mot. Tout d'un coup, il se lève, il prend le petit gars par la main, puis il dit « Viens-t'en ». Il l'a emmené jusqu'à la grange. Rendu là, enlève ton petit chapeau. Pourquoi faire, papa? Tu le sauras bientôt. Enlève ta petite chemise. Pourquoi faire, papa? Tu le sauras bientôt. Enlève ta petite camisole, tes petits souliers. Pourquoi faire, papa? Tu verras bien. Couche-toi là. Le petit garçon s'est étendu, son père à côté de lui. Puis dans l'espace d'un moment, la grange au complet s'est transformée en un grand brasier. Puis de ce grand feu-là, deux petites flamèches sont sorties. Ils ont pris le bord du bois pour aller mourir dans les mains du quêteux qui s'en allait. De la même manière que l'histoire, là, elle a fait le tour de toutes vous autres. À cette heure, ben, elle retourne dans la poche du conteur.
Le conte du Genévrier est un conte populaire allemand qui figure parmi ceux recueillis par les frères Grimm. Ce conte est rangé dans les contes AT-720 selon la classification Arne-Thompson et correspond au type « Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé ». Il en existe une très grande quantité de versions et de variantes. L'histoire met en scène deux enfants dont l'un des deux devient le souffre-douleur de sa mère ou de sa marâtre, selon les versions, jusqu'à ce que celle-ci commette sur lui l'acte le plus extrême. Le récit fait intervenir un arbre magique, en l'occurrence un genévrier, et une métamorphose en oiseau au chant envoûtant. Mais parfois, c'est par une flûte en os ou bien faite du bois du genévrier que va monter le chant réparateur. Je vous en donne une trame générique d'une des nombreuses versions. Un père se remarie après avoir eu un fils en première noce. Sa deuxième femme donne naissance à une fille. La nouvelle épouse, jalouse du premier enfant de son mari, commence à le traiter très durement. Un jour, elle demande au petit garçon s'il veut une pomme. Elle ouvre le coffre pour qu'il s'en choisisse une et d'un coup rabat le couvercle si violemment que la tête du petit garçon est coupée net et qu'elle roule au milieu des pommes. Elle parvient à faire croire à la petite que c'est elle la responsable de la mort de son frère. Puis elle le cuisine en ragoût et elle le donne à manger au père en faisant jurer à la petite de garder le silence. Quand le père rentre, il demande où est son fils. Sa femme lui dit que le petit garçon est parti chez sa grand-mère. Le père mange tout le ragoût. À la fin du repas, la petite fille ramasse dans son foulard tous les os de son frère. Elle part déposer les os sous le genévrier, l'arbre se met à bouger, un brouillard semblable à du feu en descend, et de ce feu sort un oiseau, qui s'envole et qui disparaît. L'oiseau va se poser sur la maison d'un orfèvre, puis sur la maison d'un cordonnier, et enfin sur un moulin. Et chaque fois, l'oiseau chante la vérité. « Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. » En échange de son chant, il reçoit des cadeaux. Une chaîne en or, une paire de chaussures rouges et la meule du moulin. Et puis, il regagne la maison, tout chargé des cadeaux. Le père reçoit la chaîne, la fillette les souliers. Et la marâtre, elle est écrasée sur la roue de moulin. En entendant le fracas, le père et la fillette sortent et voient à l'endroit où la mère se trouvait monter une vapeur qui se transforme en feu. Quand les flammes ont disparu, le petit garçon est là. Dans son ouvrage « La bête singulière », l'ethnologue et chercheuse au CNRS Claudine Fabre-Vassas en expose d'autres versions qu'elle lie à la tuée du cochon. Là, c'est un os qui va chanter la vérité. Tout commence par une jalousie dévorante. Les aînés en veulent à leur cadet, la marâtre déteste le petit garçon né du premier lit, et puis la haine éclate. Le cadet est battu à coups de pierre, le garçonnet égorgé par la marâtre, la mort est chaque fois soudaine et violente. Les meurtriers ne sont pas soupçonnés, le silence tombe sur l'énigme irrésolue d'une disparition. Dans les contes d'Europe méridionale, un animal fouillant la terre trouve un os qu'un berger ou la jeune sœur du défunt ramasse aussitôt. Dans ses mains, celui qui saisit l'os peut voir se former un oiseau, mais en général, il taille lui-même de son couteau de pâtre un sifflet ou une flûte. Il suffit parfois qu'il porte l'os brut à sa bouche pour qu'advienne le prodige, simple ou complexe. Les instruments ont chaque fois la même vertu. L'oiseau lâché, le sifflet, la flûte ou l'os effleuré se mettent à fredonner un couplet dénonciateur où la victime parle à la première personne. En pays de Sceaux, les vieilles conteuses affectionnent ce récit et le sifflet d'os chante « Siffle, siffle au berger. Ce sont mes frères qui m'ont tué pour la rose de pin perlé que j'avais trouvée. » Le crime est révélé. Les assassins sont nommés, parfois châtiés. Le plus souvent, cette parole prélude à un plus complet retour, l'enfant assassiné dont les os ont chanté. Tout ce de son corps ou cet os unique revient à la vie. Ce canevas peut rencontrer un autre fil qui vient souligner les qualités des protagonistes et donner à certains épisodes un éclat plus dramatique en traduisant cette histoire en un autre langage, celui de la tuée et de la cuisine du cochon. Quelques versions de la marâtre meurtrière sont traversées par cette correspondance. On la voit égorger le garçon, recueillir le sang et mitonner pour son époux une fricassée saignante de pieds et de mains. Chaque fois, la petite victime est soit enfouie à la sauvette, soit mangée, pourtant un os est malgré tout préservé et animé d'un souffle qui lui donne la parole. Or, chaque vivant possède un os, un petit os, un petit doigt. Serait-il déjà os qui chante ?
Le tueur et la tuée, 100 ans après, sur les lieux du crime, dans la buée, se reconnaissent, tu Dieu, 100 ans après. Mais comment, chérie, en toi rien ne change. Et toi, mon cœur, mon amant, tu restes haut comme un ange. Tu m'aimes, je l'ai prouvé, à tes lèvres, ta salive. Quel coup de te retrouver, 100 ans après, morte ou vive, couchée dans les hautes herbes. Les morts deviennent bavards, ils parlent de ce poignard qui fut un moment superbe. Je te revois dévêtu, dit-il, dans ce meurtre chaud. Grand loup, je suis ton agneau, répond-elle frappe. fais-tu, moi, doucement, de nouveau, tue-moi, doucement, de nouveau, doucement, de nouveau, de nouveau, de nouveau, doucement, doucement, de nouveau.
C'est la fin de la guerre. Les réserves sont épuisées, les poches trouées, les ventres creux. Le peu qu'il reste, la mère le passe dans la boisson. Elle boit. Pour oublier que la guerre a tout mis en morceaux, elle boit. La maison est plantée au cœur d'une forêt, parcheminée de trous d'obus, on dirait du gruyère. Et ça fait tellement longtemps que par ici, on n'a plus connu le goût de ce fromage-là. Et tandis que la mère rentre du petit bar et traverse la forêt, elle se voit patauger dans le fromage. Elle titube et se laisse envahir par le fumet de cette pâte aux mille bouches prête à l'engloutir. Et du fond des bouches, il y a une petite chanson qui monte et la mère reprend à l'unisson pour se donner du cœur à la marche. « Les copains m'appellent Cirrose. Je vois vraiment pas pourquoi, pourquoi, pourquoi. » C'est sûr que j'aime bien les fleurs, mais pourquoi justement si rose et pas plutôt deux ou bien trois? Dans la forêt, il y a le père qui bûcheronne. Il tombe les arbres pour tenir le froid à distance. Le père, c'est un taiseux, mais il a des bons bras. Et la petite, elle est toujours dans ses pattes parce que les bras de son père, c'est ce qu'elle connaît de plus rassurant. Dans la maison, ils ont tous le ventre creux comme une assiette vide. Sauf la mère qui, depuis quelque temps, voit son ventre s'arrondir d'un petit qui se prépare à venir. Elle n'en veut pas de ce petit. Elle veut pas de cette bouche de plus à nourrir, alors elle continue de boire pour essayer de noyer le poisson, mais le petit s'accroche. Il remonte le courant. Il trouve son bout de chemin pour faire son entrée au monde par un matin d'hiver. Il est beau, ce petit-là. Il a le cheveu rouge et puis deux belles pommes bien rondes en place de joues et la petite, dès qu'elle le voit, elle fond d'amour pour ce petit-là. Elle s'en vient poser une main sur le rond de la joue, elle l'adore, fourrer son nez dans le cou du bébé et y dénicher un tout petit parfum de lait. Elle adore les petits bruits de bouche qu'il fait quand il est au sein de la mère et qu'il tète goulûment. Et pendant que le petit tète, depuis plusieurs soirs à table, on se contente de soupe claire, sans yeux à la surface, on n'ose même plus se regarder. Il n'y a plus que le vin de la mer pour noyer les tenailles de la faim, mais ce soir-là, à table, il y a la colère du père qui éclate. Il y a le poing qui martèle la table. « Bon Dieu, si t'arrêtes pas de passer tous nos sous dans le vin, je te promets, demain, si tu trouves pas de quoi mettre dans nos assiettes, mais je te promets que je te passerai le goût de boire, quitte à t'envoyer nourrir les bestioles au fond de la terre, tu comprends ?» La mère, elle se lève en titubant et sans dire un mot, elle débarrasse les assiettes. Juste un coup de chiffon, c'est sale de rien. Et elle les range. Les copains m'appellent si rose. Je vois vraiment pas pourquoi, pourquoi, pourquoi. Le lendemain matin, la mère est toute seule avec son petit accroché à son sein, assise à la table de la cuisine. Et là, elle se rince le gosier. Allez, juste un verre. Encore un verre, juste pour y trouver tout au fond un petit peu de courage. Juste un bout de pensée, rien qu'un morceau d'idée. Elle plonge son nez dans le verre. Et voilà qu'elle y tombe tout entière. Et quand elle rouvre les yeux, elle est là, en train de flotter dans l'immensité rouge d'une mer lointaine et exotique. C'est l'été. L'eau est rouge et chaude et belle. Et la mer s'offre un bain et tout son corps s'abandonne à la caresse chaude de cette eau rouge. Elle fait la planche, elle plonge un peu, elle remonte, puis elle boit la tasse. Oh, au passage, une fois, deux fois, trois fois pour la route. Et quand elle ressort de l'eau une dernière fois encore grise de ce bain, elle voit des milliards de pétales de roses qui commencent à tomber en pluie autour d'elle. Ça vient dessiner comme un chemin qui serpente. Alors elle silence, tout vertige, virant de bord. Et au loin, elle aperçoit un petit point rose qui sautille au milieu du chemin. À mesure que ça s'approche, elle voit que c'est un petit cochon. Un petit cochon de lait tout gras et tout rond. Et le cochon, tout petit porcelé, il court vers elle, il lui saute dans les bras et de son groin, il s'en va fouiller son corsage, trouve le sein, commence à téter à pleine goule en grognant. Et alors une chorale de voix d'ange entonne un Gloria céleste, tandis que la pluie de pétales tombe de plus belle et au summum du lyrisme, la chorale dégringole dans une cascade de voix qui au pas militaire se met à marteler. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Quand le père et la petite poussent la porte ce soir-là, ils sont tout de suite cueillis par un délicieux fumé au tout petit parfum de lait. Il y a la table qui est déjà mise. Et le père, satisfait, trouve la marmite en train de bouilloter sur le feu et sous le couvercle, il y a une belle soupe qui mijote et qui fait des yeux tout ronds à la surface. La petite, elle grimpe sur un tabouret, elle regarde, elle reconnaît les yeux et son nez reconnaît le tout petit parfum. Elle se cache sous la table. Bah, qu'est-ce qu'elle a ? Oh, t'occupe, ça lui passera, viens donc manger. Mais où t'as trouvé ce cochon ? Je l'ai trouvé. Je me suis arrangée, mange. Alors le père mange, en jetant sous la table les os rognés comme il a toujours fait quand il y avait des os pour que la petite s'en fasse des osselets. Et le petit, il est où ? Il dort. Fais pas tant de bruit et va pas le réveiller, allez, mange. La petite, elle reste cachée sous la table. Elle récupère un à un les os qu'elle vient coucher au milieu de son mouchoir. Plus tard, quand tout le monde dort, elle quitte la maison silencieuse et se glisse dans la nuit. Elle se rend au baquet contre la maison pour y laver chacun des petits os. Puis sur la terre du jardin, elle gratte un peu, elle aplanit, elle y dépose les os. Elle les pose sur la terre et elle forme une constellation qui vient se miroiter dans le ciel étoilé. Elle se couche là, tout contre les os de son frère. Le vent se lève. Il tourne autour de la maison pour aller se glisser parmi les os. Il traverse un os creux et forme un petit chant flûté comme une voix d'ange qui se met à envahir toute la forêt. C'est ma mère qui m'a tué. C'est mon père qui m'a mangé. Mes petits os bien nettoyés, ma petite sœur m'a ramassé. Et le chant monte et file jusqu'à la maison pour venir attraper la mère par l'oreille. C'est la mère qui m'a tué, c'est mon père qui m'a mangé. Mes petits os bien nettoyés, ma petite sœur m'a rassemblé. La mère s'assoit au bord du lit, se lève titubant et sort dans la nuit. Elle crie en essayant d'attraper de la main le chant comme une volée de mouches obstinées. Tais-toi, tais-toi, tais-toi le vent. C'est ma mère qui m'a tué. C'est mon père qui m'a mangé. Mes petits os bien nettoyés, ma petite sœur m'a réchauffé. Et la mère court à travers le bois et tire ses bras et hurle « Tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Et le sol de la forêt sous ses pieds ondule comme une éponge et les bouches de gruyère se joignent au chant, s'ouvrant béantes pour avaler la mère tout entière dans un cri. C'est ma mère qui m'a tué, c'est mon père qui m'a mangé. Petits os bien nettoyés, ma petite sœur m'a ramassé. Dans la maison, le père entend le hurlement de la mère, ça lui déchire le tympan. Il entend le chant. C'est ma mère qui m'a tué, c'est mon père qui m'a mangé. Mes petits os bien nettoyés, ma petite sœur m'a rassemblé. Le père s'arrache à son lit d'un bond. Il se penche au-dessus du berceau et voit que le petit n'y est pas. Il sort de la maison, le visage rempli de larmes, il s'enfonce dans la nuit et là il trouve la petite qui sanglote contre les os. Il s'agenouille et s'en vient pleurer longtemps sur les os du petit. Il prend une poignée de terre, il en recouvre les ossements. Il se couche contre la petite tombe et prend sa fille entre ses bras. Un voile de brume descend et vient les couvrir. Juste le temps de traverser cette nuit. Au matin, c'est le chant d'un oiseau qui les tire de leur sommeil et les ramène à la lumière encore fragile d'un petit jour qui demande à naître. Le père et la petite ne sont plus sur le sol. Ils sont tous les deux dans un grand bain de verdure, perchés entre terre et ciel. Ils se réveillent enchevêtrés dans le feuillage d'un immense pommier qui s'est enraciné là et dont les branches sont chargées de pommes belles et arrondies. Au creux de son tronc, le pommier berce le plus précieux de ses fruits. Un fruit qui babille au petit jour, un fruit très vivant. Il y a là un tout petit bout d'homme, un tout petit garçon aux cheveux rouges et aux joues arrondies. Alors le père plonge sa main. Il s'en va cueillir doucement le garçonnet. Il le ramène tout contre lui, le chauffe contre son cœur et puis le dos à l'écorce. Avec ses deux enfants tout contre lui, ils respirent ensemble les effluves de pommes, toutes remplies de promesses, dans la lumière du jour qui naît.
Ma phrase, tout dit, tout dit, tout dit.
J'ai pris ce conte, je lui ai tourné autour longtemps. Je l'ai pétri, je l'ai laissé, je l'ai remâché, mijoté, laissé encore, laissé lever, reposer. Par ma bouche, je vous l'ai donné. Je le remets sous la pierre pour le suivant.
Il me semble que c'est impossible quand on est un humain, de se passer de la parole symbolique. C'est notre langage. Et il faut absolument qu'il cohabite avec le rationnel, avec le factuel, avec le comptable. Il faut que ça cohabite, quoi. Ça, j'en suis plus que convaincue. C'est inhérent à ma capacité de m'exprimer aujourd'hui sur le monde. Je ne peux pas m'exprimer sur le monde si je ne passe pas par cette parole symbolique. Et je ne serai pas assez juste. Il me manquera quelque chose. J'ai pris conscience au cours de mon parcours et de mes prestations de conte que ce que je souhaitais, c'était que le public en face trouve de la force pour vivre sa vie. Je ne sais plus comment je le disais. Tu vois que ces contes entendus, où on retrouve forcément nos désirs, notre vulnérabilité, se moquer de nous. Il y a tout dans les contes. Il y a tout ce qu'on peut vivre dans la vie. Du chagrin à la plus grande joie. De la fragilité à la puissance, tout est là. Et après avoir compté, quand c'était un spectacle ou un tour de conte comme ça, c'était « j'espère qu'ils vont s'accrocher à leur morceau de lune ». C'est ça.
Pour cette émission, je suis allée cueillir les merveilles de parole des conteurs et conteuses Michel Faubert et Gigi Bigot. Je les remercie pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils nourrissent de la beauté de cet art volatile. Vous retrouverez toutes les références aux musiques et aux extraits diffusés sur la page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie Pauline Lemaire Desmarais pour la réalisation. Et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission sur les ondes de Radio Lynx.